pourra pas garder le suspense. Du coup, puisque de toute façon le top 10 a été dévoilé, c'est The Strangers de Nanjing qui, au-delà d'ailleurs du top 10 asiatique, se retrouve premier pour moi de tous les films qu'on a vus cette année. On va y arriver, on va en parler, mais avant ça, on va dérouler les 10 films qui sont un petit peu moins bien, mais tout de même extrêmement intéressants pour le cinéma asiatique, en commençant par le 10e. Comme chaque année, c'est Oussia Ossienne. C'est, pardon. C'est justement qui n'est pas là chaque année. Mais par contre, comme chaque année, c'est Hong Sang-soo qui se retrouve
mystérieusement
à la 10e place, donc dans ce peloton de tête, avec Un jour avec, Un jour sans. Sidi, je crois que c'est un film que tu as beaucoup aimé aussi cette année.
Ouais, j'ai aimé Hong Sang-soo. Ah, Hong Sang-soo. Bah oui, je l'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est un peu une redite. Hein. Chaque année, il y a Hong Sang-soo dans le top.
Puis chaque année, c'est toujours.
J'ai déjà vu son prochain que j'aime beaucoup. Ouais, donc il figurera sans doute dans mon top 2017.
Et il sera 10e du classement Eastasia de 2017.
Non, ce que je peux dire là-dessus, c'est quoi? C'est un peu ce que je dis tout le temps. C'est un grand cinéaste.
Tu ne se répètes pas. Contrairement
à moi, ce que l'on dit, c'est pas un cinéaste du piétinement et de la répétition.
c'est vrai, c'est
un cinéaste à la réalisation de la
tout,
variation.
Tout c'est vrai indique qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont quand même voté pour ce film cette année.
Bah oui, quand même.
Ouais, deux quoi.
Enfin, trois, je crois.
Trois, quatre, allez.
Moi j'ai voté dessus l'année dernière. Donc.
Moi aussi.
C'est un cinéaste qui ne s'intéresse qu'à l'hypothèse. C'est un cinéaste qui installe des scènes pour mieux éventuellement les refaire plus tard. Et tout ce film-là en particulier décide de faire de ce concept, voilà, on va dire, le point de départ. C'est là-dessus que ça repose littéralement. Il y aura deux films en un, et on va dire que le second film sera moins donc la répétition du premier que son palimpseste, pour employer un grand mot. Et le plus stimulant dans ce film, c'est la manière dont il va requérir notre souvenir de ce que l'on avait vu la première fois. La première fois, on voit un film classique de Hong Sang-soo. Et la seconde fois, on doit voir un autre film tout en essayant de se souvenir de la manière dont il avait filmé la première fois. Ce qui fait que c'est excitant tout du long, pendant 2 heures. Et c'est ce qui donne envie de sans cesse le suivre.
Et voilà. Non.
Sais que certains ne seront jamais pour
un du coup, c'est un peu l'idée d'avoir un top 10. On sait que certains ne sont pas forcément d'accord. Certains titres peuvent paraître un peu surestimés.
Mais en quoi c'est surestimé ça? J'aimerais bien savoir.
Alors, je vais laisser la parole à Martin ou Elvire.
Allez, vas-y, Martin, t'es plus
les roulants. Disons que moi, ça fait un peu l'effet inverse de Z. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de voir un cinéaste en Alzheimer et qui, du coup, radote. Voilà. Pour le dernier, je l'ai vu en clôture du Festival de films coréens à Paris pour sa 10e édition.
Toujours avec Un jour sans.
Voilà, exactement. J'ai vu Un jour avec, ça m'a vraiment ennuyé copieusement. J'ai roupillé pour le deuxième.
T'as dormi, j'étais à côté.
Oui. mais comme un sonneur, vraiment comme un sonneur. C'est, voilà, c'est, non, mais moi je peux pas. C'est vraiment, c'est au-delà de mes limites.
Je trouve techniquement, esthétiquement, c'est quoi le problème?
Ah non, mais pour
pas
moi,
c'est un mauvais cinéaste.
Je trouve que pour moi, il a pas de deuil. Non, mais vraiment, il s'est pas cadré.
Il
a pas d'œil, il s'est pas cadré, il s'est pas construit une scène.
Ah non, tu peux pas dire ça.
Il
y a des cinéastes que j'apprécie pas, mais je suis obligé de reconnaître que c'est quand même qu'ils savent composer un plan.
Ah non, non, je ne sais pas travailler l'image.
Qui plus est, c'est un parfait dialoguiste.
C'est un parfait dialoguiste.
Sur le dialogue, ok.
Pour moi, il a raté sa vocation parce qu'il a fait très bien, on va utiliser des mini-séries pour le web. C'est vraiment faire des petits trucs, des petites vignettes de 5 minutes, ça passerait très bien. Mais voilà, faire des films d'une heure et demie, c'est juste pas possible.
Sur 2 heures.
Sur 2 heures, et en plus, enfin, voilà, mais c'est vraiment l'image toujours vidéo dégueulasse. Oh. Et puis
avec
ses coups de zoom. Non, c'est vraiment, t'as l'impression que
c'est
toujours.
Mais le zoom, c'est intéressant, c'est justement parce qu'on a perdu l'habitude des.
Non, mais c'est toujours le même, son zoom.
Le zoom est toujours le zoom.
Non, mais c'est toujours sur le même.
Il a toujours l'impression
que. Je ne veux pas dire la même chose.
Il a toujours l'impression qu'il est accidentel, que son doigt il rip sur le bouton et
mais non, voilà. C'est parce que vous avez perdu l'habitude du zoom dans le cinéma.
Non,
la vérité. Si vous n'aimez pas le cinéma, c'est la vérité. Il n'y a plus de zoom dans le cinéma. Et donc, quand un cinéaste fait le zoom, vous vous dites oh putain, qu'est-ce que c'est? C'est ouf.
Non, du tout.
Mais si, c'est ça.
Non, c'est pas ça.
Non, pas pour des cons, c'est exactement ça.
Non.
Un peu. La morale, ça va quoi.
Vous en parlez comme d'un cinéaste.
Non, mais lui il dit qu'il ne s'est pas cadré dans ta
Là on est pris dans des cons, nous,
dit pour conclure sur le sur Long Sang Soo.
Non, c'est juste que je peux comprendre qu'on c'est vrai que c'est un cinéma très identifiable, très identifié. C'est vrai que quand on va voir Long Sang Soo, on sait un petit peu
c'est un auteur, c'est normal,
ça tend à cette petite musique, mais on peut pas en parler comme d'un cinéaste sans intention. Je pense que s'il y a aujourd'hui dans les cinéastes en activité, un cinéaste qui sait parfaitement ce qu'il fait, c'est lui. Il n'y a rien d'accidentel dans son cinéma. Mais plutôt que de nous imposer une surmaîtrise à la Tarantino, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il y a certains cinéastes qui deviennent insupportables dans leur manière d'accentuer leur signature. Là où Hong Sang-soo est toujours dans un travail de soustraction qui va permettre aux spectateurs d'être en permanence attentif, en permanence au travail. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui, moi, me fait travailler. C'est un cinéaste tout sauf hasardeux, d'une certaine manière. Donc, que l'on soit insensible à son esthétique, je veux bien l'admettre, mais on ne peut pas dire que c'est un mauvais cinéaste. Martin, là, pour le coup, je trouve que c'est un mauvais cadreur.
Et surtout pas un mauvais cadreur, puisque tout Un jour avec un jour sans est quand même sur la composition du cadre. C'est-à-dire, sur la première,
moi, je trouve ça vraiment, sa façon de travailler la lumière, c'est une image vidéo dégueulasse qu'il fait, c'est vraiment, c'est pas possible.
Samir, après, tu pourrais réagir, mais j'ai une question pour Martin, qui est, quelles ont été tes impressions quand tu as découvert ses premiers films, qui étaient au sein des studios, qui étaient un peu plus produits, on va dire, avant qu'il fasse tout ce travail de soustraction, c'est genre.
Moi, j'ai découvert par hasard, parce que j'entendais vraiment beaucoup de gens dire du bien de lui et tout, et je suis vraiment allé sans aucun a priori, quoi.
C'était quel film, hein,
j'ai commencé avec Amon et les hommes, après, j'ai commencé à refaire les autres pour voir un peu ce qu'il avait fait avant, parce que je comprenais pas, quoi. Je me suis dit, je suis tombé sur le mauvais film et tout. Et je me suis rendu compte que non, c'était tout le temps la même chose, tout le temps.
Mais tu vois, quand il fait Le jour où le cochon tombe dans le puits, ou le premier film, qu'il y a un vrai travail sur la lumière, il y a un vrai travail sur la photographie.
C'était plus appliqué, quand il faisait du travail en pellicule, quand il est arrivé en numérique, c'est vraiment dégueulasse. Mais vraiment, l'impression qu'il fait travailler chez des élèves de première année à l'université, et c'est vraiment pas possible, quoi.
Samir ?
Pour rejoindre ce que dit Sidi, c'est vrai que en tant que spectateur, on se sent utile par rapport au film, par rapport à sa filmographie. Je trouve que c'est l'un des rares cinéastes en activité qui continue de prendre beaucoup de risques, qui expérimente sans cesse au niveau de sa narration, au niveau du montage, au niveau même de la construction du film. Je pense que ça reste quand même un véritable cinéaste dans le sens où c'est quelqu'un qui crée des plans, qui pense, c'est ça qui est très important. Après, on peut trouver ces images peut-être dégueulasses ou pas, mais j'ai envie de te dire, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous dit le cinéaste entre un plan et un autre plan. Et je trouve que de ce point de vue, Hong Sang-soo est quelqu'un qui continue encore de nous faire énormément confiance, nous spectateurs, et parce qu'il expérimente énormément, il nous fait confiance. Et c'est intéressant. Après, je ne dis pas que tous ces films sont extraordinaires. Et moi, je connais Hong Sang-soo. J'ai découvert ces films par ses premiers films. J'ai vraiment la trilogie.
Voilà.
Et c'est vraiment au moment où je les ai découverts. Et à partir du moment où je sais que Sidi et moi, on partage un peu le point commun d'avoir des réserves sur certains films, sur tous les derniers, ça ne veut pas dire pour autant, je pense que je ne veux pas parler à sa place, mais je pense que ça reste un cinéaste, Tarantino, qui est très important. Mais par rapport à Hong Sang-soo, Hong Sang-soo est quand même l'un des rares qui continue encore comme solution, continue encore d'expérimenter énormément. Rien que pour cela, c'est intéressant. De dire que c'est pas forcément un cinéaste qui sait cadrer, je crois que c'est un peu. Enfin, je pense pas que ça soit. Enfin, je pense que c'est un peu osé, quoi, de dire ça.
Au contraire, on aura l'occasion de parler à ça.
Très bien. Alors, on va passer un peu plus rapidement.
Dessouler là.
Sur
comment t'as fait.
On va passer un peu plus rapidement sur les 8 autres films avant d'arriver à The Strangers. Donc, en 9e position, nous avons Being Good de Mipo O. Elias, je crois que tu l'avais découvert à Vesoul et que tu avais beaucoup aimé.
Alors Being Good, je pense que c'est un film qui a beaucoup profité du contexte dans lequel je l'ai vu. C'est-à-dire qu'après 5 jours de films thaïlandais des années 50 et d'autres films tadjikistanais ou turcs assez moyens, voir un film japonais de bonne facture m'a fait beaucoup de bien, m'a fait beaucoup de good.
Et donc, non mais Bigwood, c'est un excellent, j'ose pas dire ce terme parce que je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais c'est un excellent feel good movie. C'est-à-dire que on me le dit depuis que j'ai 5 ans. Being Good, c'est un bon drame, je sais pas trop comment dire, c'est un film comme les Japonais savent le faire, comme beaucoup de réals.
Et qu'on voit de moins en moins quand même au Japon.
Ça parle de quoi? J'ai toujours la question con, moi.
Lila, tu l'as vu aussi?
Oui, alors c'est également un film qui m'a énormément plu. Donc pour répondre à la question à lire, donc c'est un film choral qui va suivre donc le destin de plusieurs personnes qui vivent dans le même voisinage. On va se concentrer sur trois relations adulte-enfant qui vont être donc une grand-mère et un enfant handicapé de son voisinage qui atterrit chez elle, un jeune instituteur et un de ses élèves qui est un petit peu voilà en difficulté, et enfin une mère et sa fille bon, qui ont des relations on va dire assez compliquées. Je trouve que c'est un film qui, du fait de son sujet, risquer vraiment le misérabilisme, parce qu'on est vraiment sur des thématiques où il est vraiment facile d'en faire trop. Et dans les premières dizaines de minutes du film, j'ai vraiment eu peur qu'on parte là-dedans, mais je trouve qu'il y a vraiment un bon équilibre qui est trouvé au bout d'un certain temps. Les histoires progressent en parallèle en termes de charge émotionnelle, et on arrive à, voilà, ça monte progressivement. Et alors, on n'est pas dans un film choral où il va perpétuellement y avoir des interactions entre les différents personnages. C'est plus sur, je dirais, la résonance émotionnelle que les liens se créent. Et dans tous les cas, finalement, on va se retrouver dans une situation où il va y avoir un troisième personnage qui va s'immiscer dans cette relation parent-enfant et permettre de la débloquer. Et je trouve que c'est très intelligent la manière dont Mipo l'a amené, chaque fois différente et en même temps très similaire, et c'est quelque chose qui est renforcé par la mise en scène. On va avoir des transitions, que ce soit sur le son, que ce soit sur le mouvement, qui vont vraiment réussir à créer cette unité. Et dans l'ensemble, même si ces thèmes sont un petit peu simplistes, voilà, comment on disait, ça va être voilà, la bonne morale, etc. Je trouve que c'est fait de telle manière que ça ne paraît pas trop lourd, et c'est plutôt une très bonne surprise que ce film.
Alors, pour préciser, le film est disponible sur le site de VOD Outbuster, donc disponible légalement en France actuellement. Et on va rester dans le monde de l'enfance, en 7e position, en 8e position, pardon, avec The World of Us de Yung Ga Hung. Justin, je crois qu'il est assez haut dans ton classement de l'année.
Il est 3e, je crois. Et donc, c'était vraiment une des belles découvertes du Festival du cinéma coréen à Paris de cette année. Et donc c'est vraiment un des regards les plus intéressants qu'on a vu sur le monde de l'enfance, dans la vie d'une classe, les divisions, les amitiés qui se nourrissent des nous dans une classe, la relation, la manière dont on peut devenir un paria ou être au centre de l'attention dans une classe. Et puis en même temps, bien mélangé à l'aune de la société coréenne, du côté concurrentiel, la cruauté qu'on peut trouver dans la société coréenne. Donc c'était assez captivant avec des jeunes acteurs vraiment tous très bons, et puis c'est un premier film, donc c'est vraiment une belle promesse pour l'avenir par rapport à cette première œuvre de cette réalisatrice.
Elias,
par rapport à cette réalisatrice, je voudrais juste dire un mot, c'est que au FFCP cette année, avant The World of Us, on nous a montré ses courts-métrages qu'elle a réalisés avant, et autant The World of Us, je suis un peu plus mitigé que la plupart de la rédaction, autant ses courts-métrages, notamment le dernier qui a été montré, qui s'appelle Sprout, qui a gagné déjà un prix à Berlin ou Venise. Je peux dire de bêtises, donc je pense que Martin doit savoir, mais peut-être pas.
Non, en fait, je sais, c'est un des grands festivals. Mais...
Et qui est pour moi peut-être un des plus beaux courts-métrages que j'ai vu dans ces dernières années, et c'est vraiment sublime. Donc effectivement, même malgré le fait que je suis moyennement convaincu par son long-métrage, ce court-métrage donne vraiment l'impression qu'on va avoir une future très grande réalisatrice de Corée, qui sert un très grand espoir.
Elias, comme tu as la parole, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Sonotion a mérité une place cette année dans notre top 10, mais deux places, vu que The Whispering Stars est 7e et Anti-Porno est 6e?
Alors, je vais éviter de me radoter, parce que je dis la même chose à chaque podcast, donc je vais aller plutôt vite sur le contexte, c'est-à-dire que l'année dernière devait être l'année Sonotion. Il est sorti 4 films, et au final, même si Love and Peace et Tag sont un peu au-dessus des autres, c'est quand même des films qui étaient au final assez moyens, j'ai eu cette impression-là.
Et cette année, en gros, je pense qu'il s'est rendu compte de... Pardon ? Je pense qu'il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Et je pense qu'il s'est rendu compte du fait que ça...
Il a fait Virgin Psychique.
Oui, voilà.
Qui était bien à chier.
Et Shinjuku Squad,
qui est quand même très mauvais. Et je pense qu'il s'est rendu compte, ça se voit notamment dans le documentaire... Dans le docu qui était vu à l'étrange cette année, où il dit à son assistant, excuse-moi, est-ce que tu pourrais pas faire à ma place Virgin Psychique ? J'ai même pas eu le scénario, je m'en fous de ce film, quoi. Et du coup, en gros, cette année, il a fait une espèce de throwback total à ses années avant Suicide Club, c'est-à-dire enfin ces deux films-là. Anti-porno, qui évoque son époque punk, Tokyo Ga Ga Ga, tout ça, et Whispering Star, qui évoque ses films un peu plus expérimentaux du début, notamment The Room, qui fait beaucoup penser à Whispering Star. Donc ces deux films très différents, qui sont tous les deux vers une partie de son notion qu'on connaît un peu, mais c'est quand même des films qui explorent des nouvelles zones de son cinéma, notamment Whispering Star, nouvelles zones de son cinéma, et qui sont à la fois une relecture, une redite, et ouvrent des portes pour le futur de son cinéma. Anti-porno un peu moins, parce que c'est un peu un grand délire, c'est un peu une redite de tout ce qu'il a dit dans son époque punk, et pendant ses premiers films, on retrouve des éléments de Strange Circus, ou de ses films d'avant, où c'est des expérimentations punk, c'est Happenings, avec son groupe d'amis. Mais ça reste un film qui m'a beaucoup plu. Pour moi, c'est vraiment, il a mélangé tout ce que j'aime dans ton cinéma, c'est-à-dire ce délire, ce côté un peu surréaliste, ces jeux avec la temporalité, avec le temps, avec la diégèse et tout ce qui est imaginaire, ce qui sort de l'écran et ce qui mélange les genres et les possibilités. C'est pour moi, même si ça reste un très bon film et que je préfère d'ailleurs à l'autre, c'est pas plus intéressant parce que Whispering Star, je trouve beaucoup plus intéressant, malgré le fait que je l'aime un peu moins. Parce que c'est vraiment un film de son notion, comme on l'a très peu vu, comme on l'a voir jamais vu. Il y a The Room qui est ressemblant, mais The Room, mais au final, très peu de gens l'ont vu, parce que c'est un film qui est sorti il y a bien avant qu'il soit connu.
Whispering Stars, encore moins de gens l'ont vu.
Whispering Stars, c'est un film de SF, contemplatif, qui rappelle... j'ai pas dire de gros mots, parce que c'est des rêves que je connais pas très bien, mais a priori, il rappelle Tarkovsky, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Donc j'ai pas envie de juger parce que je connais pas assez bien ce réel pour pouvoir en parler. Mais c'est un film d'une lenteur infinie qui est quasi huis clos dans un vaisseau spatial, qui présente juste sa femme dont le nom m'échappe parce qu'il est trop compliqué.
Les Gomi Kamurasaka.
Merci beaucoup. Pendant 1h40, c'est un film extrêmement lent où il se passe pas grand chose, mais il y a une telle ambiance, une telle maîtrise du plan, une telle maîtrise de la lumière, et une maîtrise au final d'une tension sourde qui parcourt le film de A à Z et qui n'a jamais spectateur, c'est-à-dire que c'est extrêmement rare qu'un film au rythme aussi lent parviennent à captiver quelqu'un pendant autant de temps. Je l'ai vu au Japon, je comprenais rien ce qui se passait, mais j'étais captivé par l'écran. Bon, après, je suis pas très objectif par rapport à son notion, mais Whispering Star, c'est vraiment un film qui à la fois en fait dit des choses nouvelles et bon. Parce que en fait, dans ses derniers films, soit il était pas nouveau, notamment Tag ou Anti-Porno, soit il était pas très bon, Virgin Psychics ou Love and Peace, même si il m'a fait me faire engueuler, pas pour moi. Whispering Star, c'est un film qui est à la fois nouveau et bon. Donc son notion peut devenir un réal différent, et rester aussi bon qu'il a été pendant toutes ces années, pour moi, c'est assez incroyable.
Je suis d'accord pour The Whispering Star, en fait, qui est un exercice de style réussi et qui était bien casse-gueule, en fait. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit...
Exercice de style, pour ce monsieur.
Ouais, en plus, j'aime pas en général. En plus, quand je dis ça, c'est pas une qualité. Le premier quart d'heure, je me suis dit, si c'est comme ça pendant 1h40, ça va être long. Parce qu'il se passe rien. Il y a quand même beaucoup de... Enfin, pendant les 30 premières minutes...
ça serait absolument rien.
C'est une... Enfin, ça tourne en rond, en fait.
Mais c'est beau.
Mais ça fonctionne. Et moi, qui ai tendance à m'endormir facilement pendant les films, je n'ai pas dormi. Je suis moins d'accord pour Anti-Porno, en fait. Mais moi, pourtant, j'adore les films complètement déjantés de son notion. Mais là, j'ai trouvé que ça virait à l'hystérie, en fait, et ça m'a gonflé, quoi.
Bon, c'est ça que j'ai aimé, justement.
Il a dépassé la limite pour moi, en fait.
Mais je peux comprendre.
Oui, bah, moi, j'ai mis quelques réserves, quand même, quant à Whispering Star, que j'ai trouvé assez poseur. Et même si
son notion, elle est poseur, en même
oui.
temps.
Oui, dans mais là, quasiment, quoi. Là, un peu plus. Notamment dans sa mise en scène assez économe et aussi systématique avec le chapitrage des jours, etc. Où il se passe rien, sachant que les jours n'existent pas vraiment dans l'espace d'ailleurs. Enfin, après.
C'est pas très réaliste comme film.
C'est pas un film que
je fais en mal. Oui, bien sûr. Mais sinon, enfin, effectivement, après il y a des réminiscences de Land of Hope. Parce qu'il il reprend un petit peu le discours qu'il avait, son discours post-Fukushima.
avec un film sur Fukushima.
Ouais. Oui, c'est avant tout un film sur Fukushima, tout à fait.
Et la dernière partie est bouleversante par rapport,
oui,
par
rapport à ça. Oui, c'est ça. En fait, la fin du film est vraiment très, 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 très réussie. Après, pour faire le lien avec anti-porno, c'est le côté pop de ce notion, moi, que j'ai vraiment ressenti jaillir dans ces deux derniers films. Puisque dans Anti-Porno, il y a tout le côté kaléidoscope de couleurs qui fait vraiment penser à du pop art, même les tableaux et tout dans la mise en scène. Et également, on peut voir que dans The Whispering Star, effectivement, bon, ça parle d'un androïde qui traverse l'espace pour faire le facteur et pour livrer des colis à des humains qui ont du coup délaissé la Terre parce qu'elle a été dévastée. Et ces colis, ça m'a fait penser au time capsule d'Andy Warhol, puisque à un moment dans le film, sans spoiler, l'androïde décide de regarder ce qu'il y a dans certaines de ces capsules, et on se rend compte que ce n'est pas vraiment des colis très importants, mais qui paraissent importants pour les personnes qui l'envoient et qui les reçoivent. Donc là, il y avait quelque chose de très beau, et ça faisait ressortir ce côté time capsule, qui était assez intéressant tout de même. Mais après, j'ai quelques réserves quant au film dans sa globalité.
Sinon, le truc des joueurs qui n'existent pas dans l'espace, justement, ça révèle quelque chose du film. C'est que si les joueurs continuent à exister dans l'espace, c'est parce que l'homme existe dans l'espace. Et c'est ce que montre le film, justement. Que l'homme continue à exister malgré tout dans le néant de l'espace et dans le néant qu'est Fukushima, malgré tout ce qui reste de l'humanité. Et je pense que c'est de ça que parle le film.
Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que dans le film, pour tout ce qui est la livraison de colis, ils mettent que la livraison, il y a un an de latence, en fait. Oui, tu peux recevoir le colis pendant une période de temps d'un an. Ils ont le droit de le livrer pendant un temps assez long.
Ça serait très étonnant pour Whispering Star, c'est quand même c'est très difficile. Alors on va en parler un tout petit peu après. Sayonara par contre a une date de sortie, ça aussi on va en parler plus tard. On s'agit un peu d'émission, par contre on va parler d'un film que tout le monde a vu, qui est The Assassin.
On a vu,
de Ousia Ossian. Alors on en a beaucoup beaucoup parlé. Je sais que Sidi, c'est ton film préféré de l'année.
Oui, c'est ça.
Tout confondu.
Oui. Bah oui, comme je disais en présentation, donc il n'avait pas sorti de film depuis le voyage du Ballon Rouge, début 2008. Et ce film qui a eu très justement le prix de la mise en scène à Cannes 2015, il nous rappelle qu'effectivement Ousia Ossian est sans doute, allez on va dire, un des trois meilleurs cinéastes en activité aujourd'hui. C'est un. Moi, je pourrais te citer Aung San Suu, par exemple. Aung San Suu, pardon. J'ai tendance à confondre les deux noms. en troisième, je vous citerai Alain Giraudy. Donc, ce qui est beau avec ce genre de cinéma, c'est que ça nous. Voilà, tout à l'heure, je parlais de la participation que requérait le cinéma de Aung San Suu, et là, c'est encore plus radical. C'est un cinéma dont les plans peuvent durer 5 minutes. On pouvait avoir le sentiment qu'il ne se passe rien, les plans sont souvent assez larges, mais ce qui est bien, c'est que ça nous demande d'autant plus de concentration. Et moi, c'est ce que j'aime, moi, dans le cinéma, c'est le fait de devoir rester attentif à chaque élément du cadre. C'est un cinéaste très soucieux de composition, et qui en même temps donne le sentiment du surgissement du réel. C'est très paradoxal, c'est un cinéma à la fois très contrôlé, et en même temps terriblement ouvert. Il y a toujours de la place pour le hors-champ. Donc lorsqu'il y a un infime mouvement de caméra dans un film de Ousia Ossian, et particulièrement dans celui-là, on a le sentiment on n'est pas certain finalement que le mouvement ait réellement lieu. C'est d'une infinie délicatesse, et moi c'est ça qui m'a totalement enivré pendant ces quasiment 2 heures. Je peux raconter assez vite l'histoire, donc c'est quand même une histoire assez
Pour la raconter assez vite, il faut du courage. Hein.
C'est ça. On va éviter de la raconter. Je veux dire, mais c'est l'histoire d'une, on va dire quoi, d'une vengeresse, une jeune femme jouée par Chou.
Une assassin.
Hein?
Une assassin qui rentre dans son pays
natal. C'est Bill Clinton.
C'est ça, oui. Elle va tuer une sorte d'amie d'enfance.
Elle doit tuer, en vérité, son cousin.
Son cousin.
Qui était son ancien promis, en vérité, qui a été marié à une autre femme pour des alliances, comment dire, de royaume. Et donc voilà. Et lui ressent toujours des sentiments pour elle. Elle aussi. Donc voilà. Va-t-elle réussir finalement à aller au bout de sa mission ou pas?
C'est tellement éthique. Dans la littérature chinoise du Tu t'es plongé dans la littérature chinoise du 5e siècle,
le 9e
siècle. Non, pas autant que ça, mais bon, je m'étais bien renseigné pour l'interview de Lao Shaoxian, donc voilà.
Et tu vois, c'est tellement elliptique, finalement, qu'on a tendance à les oublier, ces enjeux. C'est-à-dire que moi, voilà, il y a un tel travail sur... c'est pas un cinéaste de surface, c'est pas un cinéaste de superficialité, pour le coup. Il y en a un peu trop aujourd'hui, des cinéastes qui ne se reposent que là-dessus. J'ai vu hier le dernier Scorsese, qui est très beau, mais qui est en même temps un pur cinéma de surface, là, pour le coup. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, je suis un peu privilégié, j'avoue. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ce travail sur les étoffes, c'est le travail sur les gestes interrompus, sur les réflexes, ce qui fait que c'est un cinéma... Ça m'a fait du bien de voir ce film-là, et vu que c'est une année, comme j'ai dit, qui m'a un petit peu déçu, ben voilà quoi, ça m'a un petit peu rassuré sur le spectateur que j'étais. Ça m'a rappelé que j'étais peut-être pas tellement blasé. Voilà.
Fantôme, c'est un film que tu as aimé aussi.
Oui, énormément. En fait, j'ai eu le sentiment que c'était un objet météoritique.
C'est un néologisme, ça, météoritique.
Oui, pourquoi ? Parce que j'ai eu l'impression que si un film avait été tourné au 9e siècle, si la technique du cinéma avait existé à l'époque, dans cette civilisation, dans cette culture, qui sont totalement différentes de la nôtre, évidemment, dans l'espace et dans le temps, et que s'ils avaient poussé sur pellicule les lumières, les couleurs, qui étaient vivants à l'époque, et que ça avait traversé les âges, et que ça nous aurait frappé de plein fouet aujourd'hui, à notre époque, ça pourrait ressembler à ce film-là. J'ai eu le sentiment d'une sorte de traversée du temps, quelque chose de totalement irréel, de météoritique, que j'avais pas ressenti peut-être depuis André Roubleff, dans un genre totalement différent. On a l'impression qui a été filmé au Moyen-Âge à certains moments. Mais là, c'est pareil, on a l'impression que ça a été filmé à l'époque.
Du coup, on revient au Time Capsule, d'une certaine manière, et à Tarkovski.
C'est totalement involontaire, mais c'est vrai qu'il y a des effets de rime. Exactement. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique dans le film, avec cette mise en scène très oblative, où j'ai trouvé que c'était du Robert Bresson à l'envers, en fait. Le film fait beaucoup penser à du Robert Bresson.
À quel moment ?
À plein de moments. En fait, j'ai trouvé que cette façon de jouer sur le son, sur la trame sonore, sur l'immensité du hors-champ, et cette sorte d'hypnose qui est résultée de cette plongée sensorielle dans un monde totalement différent, ça créait des effets qui étaient très proches de Robert Bresson, avec des moyens aux antipodes. Parce que Bresson, c'est pas du tout oblatif, justement. Bresson, il va te filmer un petit bout de corps, de bras, de jambes, de regard.
C'est plus fragmentaire.
C'est totalement fragmenté. Ouais. Par contre, il va te donner la même impression de vertige sur tout l'univers environnant. Il va arriver à suggérer des choses qui sont absolument prodigieuses, avec une économie de moyens formidable.
C'est un cinéma qui rend le monde, qui rend la vie.
Exactement. Il y a quelque chose de... Même hypnotique, c'est un mot un peu faible, en fait, pour parler de ça. C'est vraiment une sorte de plongée dans un univers qui est purement cinématographique, pour le coup, qui est réductible en aucune manière à des trames théâtrales, ou même littéraires, ou même poétiques. Et ça, c'est totalement singulier.
Non, effectivement, enfin, là, en y repensant, enfin, le fait de comparer ça à Bresson, moi, je comprends. Ouais, enfin, bon, je l'ai vu à Cannes, ça fait quand même pas mal de temps. Et en fait, c'est effectivement, Bresson serait dans le fragment le geste, mais lui, notamment dans les combats, c'est l'absence de geste. Enfin, et donc quelque part, il y a Ça correspond, il y a un dialogue qui peut s'instaurer avec le cinéma de Bresson, j'avais pas pensé à ça, mais oui, effectivement. Ouais. Enfin, moi je trouve le film très beau, hein, mais il m'a fait
royalement chier.
Mais je comprends tout à fait, en tout cas, qu'on défende ce film. Hein. Vraiment, c'est juste que moi, voilà, c'est pas forcément le film que je mettrais en avant, mais en tout cas de A.O. Social.
Mais tu es d'accord sur l'idée que c'est un des plus grands cinéastes en activité ?
Oui, bien sûr, évidemment. Ouais. J'adore ce...
je pense qu'on est beaucoup à dire que le film est superbe. Ouais. Mais on est aussi un certain nombre à dire qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Même s'il est beau.
À la première vision.
Ouais, pas moi.
Ah, mais du coup, j'ai pas pu en faire une deuxième.
Comment
en fait,
avoir le courage
J'ai pas eu le courage de le terminer, en fait, sans dormir.
Mais la vie était peut-être peu enthousiasmante au 9e siècle en Chine.
Mais peut-être que c'est ça, et peut-être que j'aurais passé mon temps à dormir en Chine.
Ou Shaoxian conseillait aux spectateurs à la cinémathèque de voir le film trois fois. Lisez la première fois, je vous endormez un petit peu, la deuxième un peu moins, et la troisième.
Est-ce qu'il sait qu'on a une vie, sinon ? À part ça.
Vu que son cinéma, c'est tout le cinéma, tu pourrais nous voir que le Shaoxian tout au long de l'année, d'une certaine manière. Voilà.
Je serais la chieuse des stagiaires à parler que de ce film, comme Elias ne manque que de son
Quand on parle de Shaoxian, il ne faut pas oublier non plus l'un de ses plus fidèles collaborateurs, qui est quand même l'un des plus grands chefs opérateurs de sa génération, qui est Mark Lee Pingbing.
Qui a fait
Eternité
quand même, le plus.
Bah oui,
c'est
il a collaboré avec tous les films de Stranung, voilà. Non mais.
C'est seul qui est fait en France à aimer.
Il a aussi beaucoup travaillé avec Wong Kar-wai. Comment dire, c'était l'homme derrière, comment dire, Christopher Doyle quand il était un peu bourré. Et c'était souvent.
C'est-à-dire tout le temps, quoi.
Voilà.
Martin, donc, tu as la parole. Est-ce que tu peux nous parler de notre film qui est en quatrième position, The Truth Beneath, qui est très haut dans ton classement, je crois même premier.
Sûrement. The Truth Beneath, c'est un thriller coréen, comme on en voit souvent à peu près tous les ans. Hein. Parce que c'est vraiment, c'est un peu le genre étendard du cinéma coréen, quoi. C'est depuis à peu près une quinzaine d'années, ça fonctionne et les studios en redemandent à chaque fois. Et au risque de lasser des fois le spectateur. Et là, c'est pas la première fois que ça arrive, mais en tout cas, c'est une femme réalise justement un film de genre en Corée. C'est une ancienne assistante de Park Chan-wook, donc bon, on peut dire qu'elle était à bonne école. Il a déjà produit son premier long métrage qui s'appelle Crush and Blush. Et donc voilà, je crois qu'il participe un peu aussi à celui-ci. Et donc, ça raconte l'histoire d'une mère de famille, épouse, comment dire, d'un homme politique qui fait campagne pour devenir maire de Séoul. Et au début de la campagne, leur fille unique disparaît dans des circonstances un peu particulières. Donc, forcément, elle va essayer de se battre pour deviner où est-ce qu'elle est passée. Et peut-être qu'elle est chez une copine, ou elle a été enlevée, ou voilà. Mais en tout cas... ça soulève beaucoup d'interrogations et chacune des interrogations va être une piste possible pour un film, voilà. Et là où la cinéaste est vraiment très forte, c'est qu'elle adopte de manière très très forte le point de vue de cette mère de famille qui est vraiment complètement déboussolée et qui va devoir assembler ses forces pour trouver la vérité et après pouvoir, comment dire, réagir en fonction d'eux. Et cette cinéaste fait preuve déjà d'une grande, comment dire, un grand sens graphique, je trouve qu'il y a quand même une identité de l'image qui est très très forte, un sens assez fort aussi de, comment dire, de la narration. C'est un film qui joue énormément sur le montage et c'est avec un scénario aussi fouillé, un peu touffu des fois, hein, quand même. C'est,
ça aurait pu être bordélique.
Ça peut être bordélique à chaque fois, elle arrive à avoir fantômé sur
ça. Ça l'est un peu au début, voilà. En fait, mais c'est.
Et en réalité, c'est parce qu'elle adopte l'état d'esprit du personnage. Et au fur et à mesure, de toute façon, elle se focalise vraiment sur un point et aller jusqu'au bout. Et là, vraiment, on monte crescendo. Et c'est vraiment très, très fort. Et puis, bon, après, ce qu'on voit souvent dans le cinéma coréen, c'est des acteurs absolument incroyables. L'actrice principale qui joue la mère. Elle est vraiment extraordinaire. C'est une actrice, c'est Sonny Jin, je crois, il me semble. Voilà, qui est une actrice extrêmement populaire en Corée, mais qui joue généralement des rôles assez sympathiques, et là, qui est vraiment à contre-courant. Et surtout, c'est rare de voir des films de genre avec des femmes au premier plan. On en reparlera avec Mademoiselle, hein, qui a pour le coup un couple féminin aussi assez hors norme dans ce cinéma-là. Mais en tout cas, voilà, c'est elle apporte une variation, une identité un peu nouvelle, et ça fait du bien. Alors après, est-ce que ça peut encore pas durer, ce genre-là? Est-ce qu'il faut qu'ils explorent d'autres pistes? Voilà, c'est faut pas oublier, ce sont les studios qui font la loi, et bon.
En tout cas, c'est une piste un peu plus enthousiasmante qu'Azura, qu'on a pu voir
d'ailleurs.
N'est-ce pas ? C'était drôle, c'était super drôle, Azura.
Du coup, donc, Lee Kyung-mi, qui est la réalisatrice de The Truth Beneath, qui est notre quatrième film, a été produite et assistante de Park Chung-wook, qui a donc sorti Mademoiselle cette année, qui est notre troisième film de l'année. Je crois que Justin, tu l'as mis en premier de ton top 10. Pourquoi ?
Parce que c'est une, je trouve que c'est une belle synthèse de son cinéma, que soit donc il y a le côté, il y a un côté romanesque, il y a ce côté recherche esthétique très fouillé, très stylisé, ce côté jeu narratif, il arrive à une belle synthèse, il parvenait peut-être pas complètement dans d'autres films où il y avait toujours un côté qui était plus mis en avant que l'autre, Alors que là, il y a le côté romanesque qu'on pouvait trouver dans le First, et le côté assez loufoque qu'on trouve aussi, ou l'humour noir, qu'on pouvait trouver par exemple dans Je suis un cyborg. Puis il a un peu mis de côté le côté plutôt nihiliste, un peu outrancier qu'il y avait dans d'autres. Enfin, il y est quand même, mais il a un peu mis de côté au service vraiment du côté romanesque de l'histoire. Et donc, avec de grandes actrices, et puis il réussit à s'en sortir par un contexte qu'on voit souvent dans le cinéma coréen de ces dernières années, c'est-à-dire l'occupation japonaise de la Corée. Et il arrive à amener un regard qu'on n'a pas vu dans d'autres films, une multitude de films. On a pu voir sur le sujet coréen récent, il a amené un regard neuf là-dessus.
Je pense que le roman de Sarah Waters dont il est adapté l'a beaucoup aidé un peu à se recentrer. C'est peut-être ça aussi qui fait que le film est aussi plaisant durant ces 2h30. Il y a vraiment une trame. Moi, ce que j'ai un peu toujours reproché à son cinéma, c'est d'être à la fois très efficace, mais justement un peu trop nihiliste à mon goût. Oui. Mais là, c'est vraiment une question de goût personnel. Je vous retrouve le Boy, par exemple, très surestimé. Dans Mademoiselle, pour moi c'est une catastrophe.
Quoi?
Non, je le dis, mais voilà, coming out.
Je le dis quand même.
Je déteste All Boy, je le dis aujourd'hui.
Putain,
voilà. Je crois qu'on va me répudier.
On va se jeter par la fenêtre surtout.
Voilà. Non, mais voilà, Mademoiselle.
Si là, il n'y a pas de commentaire.
Mademoiselle est un film pour le coup extrêmement élégant. Dans son écriture, dans la couture de son scénario. Mais aussi même dans la structure des scènes.
Et même dans l'émotion, l'émotion est quand même beaucoup plus directe que peut-être dans d'autres...
J'adore la première heure surtout, la manière dont il va installer sur une heure la relation progressive entre ces deux filles, entre la servante aimante et la...
Je crois moins quand ça reste suggestif que quand ça se déploie le côté un peu plus...
Mais même les scènes d'amour sont pas si mal filmées aussi, je trouve que globalement...
Elles sont très bien filmées, tout est bien filmé dans ce film.
Après,
c'est peut-être un peu le problème, oui.
Je le mettrais pas non plus très très haut, je l'ai vraiment mis par défaut dans mon classement.
Je l'ai mis aussi vers la fin, en fait.
Je l'ai mis, ouais.
Elias, sur Mademoiselle.
Mademoiselle, c'est un film que j'aime bien, mais voilà, mais que j'ai pas non plus trop... Je vais pas non plus dire que c'est un film de merde, mais... Il y a deux choses qui m'ont dérangé. La première, c'est comme tu dis, c'est très maîtrisé. C'est trop maîtrisé. Ça m'a un peu rappelé un film d'un maître coréen qu'on a vu cette année, c'est Edge of Shadows de Kim Ji-woon. Ce sont des films qui sont très bien, très propres, mais au final.
C'est une question parce qu'il a, on a dit du bien, il n'apparaît dans aucun. Ah oui. Finalement,
mais qui au final est tellement, tellement propre et tellement, tellement clean qu'il n'y a rien qui ressort et ça rend le film au final assez oubliable. Mademoiselle, c'est quand même moins oubliable que Edge of Shadows. Ça reste quand même un peu plus marquant, parce que personnellement, je trouve un plus de talent et plus de mise en scène, tant mise en scène que Kim Ji-woon en général. Mais il y a quand même un truc qui m'a dérangé dans ce film. Pourtant, je suis pas du tout du genre à m'intéresser normalement à ces problématiques dans le cinéma. Par exemple, adorer The Neon Demon.
Ah non, on va pas recommencer sur le dire.
Non, mais juste, il y a en fait un truc qui m'a un peu dérangé, c'est effectivement, je trouve que le film est... En fait, non.
Non, mais je crois qu'on a eu 20 fois ce
débat. Ah bon? Putain, je n'étais pas au courant.
Je
trouve que notamment la dernière scène est extrêmement gênante. Pas d'un point de vue féministe ni rien, mais d'un point de vue esthétique et d'un point de vue de ce que je veux dire sur le film. J'ai pas parlé de point de vue féministe parce que j'ai rien à dire.
On a débattu la dernière fois.
Ah, je sais pas. Je sais pas, j'étais pas là de podcast. Désolé.
En fait, on a dit que cette dernière scène était
inutile. C'est inutile et très gênant.
On dit que cette dernière scène était inutile.
Référez-vous au dernier podcast.
Désolé.
Voilà, il y a 20 minutes sur la dernière scène.
Et sur le féminisme.
Je voulais juste dire une chose par rapport à la comparaison avec, comment dire, The Edge of Shadows et Kim Ji-woon. Le problème de Kim Ji-woon, c'est que son film, en fait, c'est pas qu'il est mal écrit de Kim Ji-woon, c'est qu'il reste dans les clous. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans le cinéma, comment dire, d'espionnage. Il est vraiment dans le, comment dire, à aligner tous les poncifs. Et il en sort pas. C'est ça le problème, c'est que sa mise en scène, elle est très propre, très soignée et tout, mais il n'arrive pas à aller au-delà, comment dire, de son propre sujet. Alors que finalement le film de Park Chan-wook est quand même bien plus écrit et il apporte quand même des pistes qui sont un peu plus originales, un peu plus intéressantes. Voilà, mais c'est.
Ça reste très formel dans l'univers de Park Chan-wook en fait. Qui est un univers peut-être plus foutraque en fait que Kim Ji-woon.
Donc c'est
pour ça que ça passe mieux et que c'est plus marquant qu'un film de Kim Ji-woon. Kim Ji-woon n'est pas forcément un réalisateur qui a un univers. Très marqué ou très fantasque par Chan-wook un peu plus, mais Mademoiselle reste reste très formel dans son univers à lui, en fait.
Je verrais mal Kim Ji-woon faire un film qui parle d'écrivains érotiques de la fin du 19e siècle français, par exemple.
Oui, mais c'est... Les Park Chan-wook, ça passe, quoi. Parce que ça fait partie de son univers, en fait. C'est pas choquant. Bah, en fait,
est-ce que ça fait partie de son univers? Je ne suis pas si sûr que ça. Parce que avant ça, il n'a jamais fait de film qui parlait de cette période historique,
non,
ou de ses références littéraires érotiques.
Cette période, non, mais on avait. Il y a déjà eu des références.
En
fait,
il y avait
un côté gothique.
Il y avait un petit côté au Cave Mirbeau, ouais.
Non, mais il y avait déjà. Tu pouvais le sentir dans quelques autres films, en fait. Des pistes. C'était pas assumé du tout, mais.
Antoine, non.
Oui, très vite. Est-ce sur Mademoiselle. Alors pourquoi c'était mon film de Park Chan-wook préféré? Parce que je trouve que c'est celui qui respire le mieux.
Le moins pire. C'est
pas le moins fabriqué, mais c'est celui qui respire le mieux. Voilà, on peut le dire comme ça. Et au moins, Park Chan-wook, cette fois, j'ai trouvé une cohérence, parce qu'il ose mettre au cœur de son dispositif filmique ce qui est au cœur de son cinéma depuis toujours, c'est-à-dire l'artificialité et la mystification. Il met vraiment ça au cœur de sa mise en scène, et même de son script. Oui, il y a retournement de situation. Mais oui, il y a ces trois actes, hein, je crois, avec un retournement spectaculaire de situation à chaque fois. Donc les films, c'est comme plusieurs films successifs qui feraient écran, voilà, totalement gigantes, qui fait écran les uns aux autres. C'est quelque chose de très néo-Hitchcockien. Hitchcock, généralement, c'était une structure à deux faces. Là, on passe à une structure à trois faces, ce qui est très intéressant.
Mais là, sans que ça soit un exercice de style, ça sert
justement, le propos. Exactement. Pour une fois, Park Chan-wook ne se contente pas l'exercice de style. J'ai eu l'impression, c'est peut-être faux, mais qui était vraiment attaché au personnage et qui avait un vrai propos, alors féministe ou en tout cas humain, qui l'animait lorsqu'il réalisait ce film et qui n'était pas dans le cynisme, le nihilisme pur. Voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai trouvé que ce film était un de ses plus appréciables.
Nous allons donc parler de nos deux films préférés de l'année. Le premier, enfin en fait le deuxième, puisqu'on le fait dans l'ordre décrescendo, et Kelly Blues de Bigan. Je crois que Kefren, c'est un film que tu défends depuis que tu l'as vu.
Ouais, et d'ailleurs je l'ai vu 4 fois.
Et à chaque fois tu le défends avec autant d'ardeur.
Faire en peur de la même ardeur. Donc Kelly Blues, c'est le premier film d'un cinéaste chinois de 25 ans à l'époque où il l'a fait, de 26 maintenant. Et en fait, le film, comment dire, ça raconte en même temps le passé, le présent et l'éventuel futur d'un homme qui sort de prison et qui allait en prison justement pour sauver son frère qui est un gangster et qui essaye en sortant de prison de récupérer le fils de son frère qui vit dans une ville pas loin de Kaili justement. Et le film raconte cette recherche jusqu'à son retour à Kaili, qui est la ville où tout a commencé. Et je trouve que c'est un film extrêmement intéressant. Et justement un film très, très novateur dans le sens où il va rechercher des formes qui ont été utilisées notamment dans le cinéma russe ou dans le cinéma d'Europe de l'Est justement, et notamment dans le cinéma de Tarkovsky ou de Sokurov, ou des gens comme ça.
Je veux me parler de te dire un truc un peu méchant, mais c'est pour toi, Kefren. Lorsque tu défends un film, essaie d'être un peu plus... je te l'ai déjà dit, mais un peu plus vif. Non, mais c'est juste ça. Malheureusement, on a parfois l'impression que tu t'ennuies même lorsque tu veux dire du bien d'un film.
C'est pour ça que Xavier me demande une fois sur deux, mais tu l'as aimé, ce film?
Non, mais c'est tout. J'aime ce que tu dis, mais j'aimerais que tu sois peut-être un peu plus vivant dans ta manière de l'exprimer.
C'est un conseil,
non mais c'est vrai, c'est important.
Allez,
lors d'un entretien d'embauche, voilà. si tu fais ça, ça va pas marcher.
Pourquoi Kelly Blues mérite d'être premier dans ton top 10 de l'année?
Kelly Blues mérite d'être premier.
Tu fais comme lui, en fait.
Non, mais en fait, Kelly Blues... C'est génial parce que, en fait, c'est un film qui te raconte constamment le présent, le passé et le futur en même temps, en fait. Tout le dispositif du film, que ce soit le plan séquence dont tout le monde parle de 40 minutes, ou les ellipses, ou les images, pas en subliminal, mais en superposition, ou même la composition des plans, fait qu'il y a toujours... plusieurs dimensions qui coexistent à chaque fois dans l'image, et on a toujours l'impression d'assister à un rêve ou d'assister à quelque chose qui est perpétuellement en train de s'évanouir, de s'échapper, et finalement on comprend en fait qu'on assiste à un homme qui réalise que le temps, quoi, qu'il pourra pas revivre ce qu'il a perdu, en fait. Et c'est pour ça que Kelly Blues est l'un des meilleurs films de l'année.
Gaël, est-ce que tu partages cet enthousiasme communicatif de Kefren?
Non, non, en fait, c'est très bien qu'il ait rappelé l'histoire parce que je m'en souvenais totalement plus. J'étais complètement scotché en fait par l'esthétique même du film, par la recherche formelle que ce cinéaste avait cherché à mettre en place. Donc j'étais bluffé quand je l'ai vu. Enfin, ça remonte à. Ouh là là. Ouf. C'était quand ça
C'était cette année. Hein.
Ouais. Genre en janvier ou février.
Oui, c'est un film de début d'année. Oui. Ouais. Effectivement, il y a plus.
Et donc, entre temps, j'avais complètement oublié l'histoire, mais je suis quand même. Notamment, il y a un plan, je crois, de 40 minutes.
Le fameux plan de tout le monde. Parle. Voilà.
et vraiment, là, je. Ça je sais pas quoi dire de plus. C'est...
À propos de Gaël ou à propos du film
Il est adorable.
Gaël qu'on n'a pas vu depuis très longtemps aussi. Non, mais je suis aussi. Je partage l'avis de Kefren. Hein, c'est un film effectivement très intéressant parce que, pour plein de raisons, on parlait de la réceptivité au niveau du spectateur, de l'expérimentation. En fait, c'est un cinéaste qui a une manière comme ça de travailler sur la temporalité d'une manière parfois même tellement forte que ça en devient. Enfin, on a l'impression qu'il a une certaine facilité à travailler sur cela, alors que c'est quelque chose de très compliqué, très complexe. Et j'ai trouvé que sa manière aussi de travailler à l'intérieur d'un plan, avec bon nombre de personnages, et finalement. Un moment dans le film, on oublie l'histoire, on oublie tout cela et on se laisse emporter et on a l'impression effectivement de rêver. Et il y a ce fameux plan séquence comme ça qui dure une trentaine de minutes, voire une quarantaine de minutes, mais qui ne devient pas un exercice de style finalement. Ça devient quelque chose qui fait partie de la mise en scène et ça rend le film encore plus intriguant. Et c'est vraiment une très 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 belle expérience de cinéma et qui finalement. Oui, c'est un film qui est intéressant de par sa construction de la narration, pas forcément de son histoire, où ça s'est écrit en quelques mots, voilà, puis on passe à autre chose. C'est un film très envoûtant. Je ne sais pas si c'est son premier film, je ne connais pas très bien. C'est incroyable, c'est fascinant.
Pour un premier film.
Gaël.
Et justement, enfin, je rebondis sur le côté premier film. Et je pense que les qualités qu'on met en avant sont aussi les principaux défauts. C'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation en fait, qui veut épater les spectateurs et épater les cinéphiles et montrer son savoir-faire. Et en même temps, voilà, donc c'est effectivement assez bluffant. Et donc c'est pour ça que j'ai complètement marché. Mais je comprends aussi que c'est un film qui peut énerver justement parce que...
Il est un peu démonstratif. Yeux,
voilà.
Le mot d'exercice de style.
Mais pour un premier film, je trouve ça. Je comprends tout à fait que pour un jeune cinéaste de faire ça. Quoi,
Elias.
Justement, je serais plus proche de. Je serais plutôt en natation en désaccord.
Quoi
Pardon, c'est plutôt en traitant avec Gaël sur ce coup-là. C'est que, en fait, oui, il y a beaucoup d'effets de mise en scène et d'effets de style, entre guillemets. Mais en fait, contrairement à d'autres films dont on a déjà parlé ou d'autres films que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est pas un film qui fait du style pour faire du style. Et j'ai l'impression que depuis cette année ou depuis l'année dernière, enfin depuis quelques temps, il y a beaucoup de réals qui font vraiment du style pour faire du style et qui font très bons films, hein, que j'aime beaucoup, hein, notamment Winning Refn, qui est mon réal préféré, voilà, enfin mes réals préférés. Mais en fait, Gigan, dans ce film, vraiment, pour chaque chose qu'il fait de mise en scène, ça a un sens. Ça a un sens pour le film, ça a un sens pour le spectateur et pour l'histoire qu'il doit raconter. Et pareil, le plan séquence, on est quand même dans un monde où un réal peut avoir un Oscar juste parce qu'il a un espèce de plan séquence, un fou plan séquence quoi. Et lui, le sien, c'est un vrai plan séquence qui veut dire quelque chose et qui a. Fadinarico de Berman. Ouais. Et là, je parle vraiment, là, c'est vraiment ce qu'il a fait, c'est un vrai plan séquence qui veut dire quelque chose, qui a un intérêt et qui a une fonction dans le film. Et de voir un réal qui me parvient aussi bien à mélanger le fond et la forme aussi jeune. Et je trouve ça assez incroyable. Effectivement, Gigan, je pense, s'il continue dans ce chemin-là, va devenir un des plus grands réals chinois de ces dernières années.
Très bien, on va passer à notre premier film. Je pense que tout le monde est d'accord sur les qualités. On va en parler justement, parce que le film est un peu surestimé. Est-ce que finalement il y a personne en face? On a vu qu'il y avait des films.
Est-ce que c'est le Old Boy de 2016?
Est-ce que ça peut être le Old Boy de 2016? Donc on parle de Nanjing. Alors qui l'a mis premier dans son classement cette année?
Ah non, moi c'est Kylie Bluestar.
Oui, je peux pas avoir plusieurs premiers films.
On est que deux à l'avoir mis en premier.
Moi aussi.
Trois.
Oui, mais tu n'es pas que deux. C'est le rédacteur en chef qui l'a mis.
Donc ça fait 10 en fait.
Ça va compte.
On se retrouve triple.
Du coup, il se retrouve premier, deux.
Tu cites.
Après, beaucoup en deuxième aussi en fait. C'est une question à poser, c'est que beaucoup l'ont mis en deuxième, j'ai l'impression.
Tout à fait.
Mmh. Il est dans tous les classements.
Oui, enfin, il est dans le top 3.
Moi, je
ne
l'ai pas vu,
fait,
donc pas dans
le j'ai mis 4 quatrième. Alors, du coup, alors,
je l'ai mis pour.
Donc, il y a. Et Elvire qui ont levé la main, parce que c'est vrai que c'est un podcast audio et non.
Oui. Donc, c'est Elvire
et Lila qui ont levé la main. Lila, pourquoi ce film se retrouve premier dans ton classement?
Alors, pourquoi ce film se retrouve premier? Il s'avère que. Par un concours de circonstances, je l'ai vu deux fois en trois jours d'intervalle. Et la première fois que je l'ai vu, je n'ai pas réussi à savoir si je trouvais ce film absolument génial ou complètement ridicule. Parce que c'est un film qui va tellement loin dans sa démarche. Parfois, je me suis demandé si ça n'allait pas trop loin, s'il ne devenait pas quelque part grand guignolesque. Mais je trouve que c'est un film qui est vraiment maîtrisé, qui quelque part se dédouble parce qu'il manipule vraiment le spectateur. Que ce soit à la fois... que ce soit dans le scénario ou dans la réalisation, il y a un moment donné où il y a comme un déchirement entre le scénario, on pense savoir où ça va, Jun Kunimura, le japonais, qui est le méchant, etc. On pense aller où ça va, et quelque part, à un moment donné, la réalisation se modifie par de petits changements de cadrage, par de petits changements de musique, on manipule le spectateur, on lui fait croire que finalement, le film va dans une direction différente. Le spectateur se sent intelligent et il se dit « Ah, j'ai compris ça parce que la musique, etc. » Et finalement, derrière, il y a encore des rebondissements, etc. Je trouve qu'au niveau du scénario, même si la fin est peut-être ouvre à beaucoup d'interprétations, peut laisser un peu sur sa fin, j'ai trouvé que c'était un exercice qui était très réussi. Et après, derrière, il y a la performance des acteurs que j'ai trouvé fabuleuse. Jun Kunimura en particulier, qui a le rôle du japonais, m'a vraiment bouleversée. La petite fille, évidemment.
Actrice de l'année.
Ouais. Effectivement, voilà, c'est vraiment deux performances. Mais
après, c'est la décennie.
Je trouve que
Oscar,
Isabelle Huppert n'a qu'à bien se tenir.
Je trouve que Naomjin a vraiment une façon de mettre en valeur ses personnages. Et puis, au niveau de la narration, enfin, il y a vraiment aussi une façon qu'on retrouvait déjà dans The Chaser, mais je trouve que c'est encore plus présent ici. De faire mais vraiment cohabiter un humour qui est quand même vraiment sincère, parfois noir mais pas toujours, l'humour et l'horreur mais vraiment mais en fait mais dans la même phrase cinématographique
de temps,
par exemple la scène d'exorcisme par exemple c'est les deux en même temps quoi. Grand guignol, trans, et puis il y a la terreur.
Il y a vraiment une maîtrise de plusieurs genres, de plusieurs tons. On trouve un peu du Memories of Murder dedans, je trouve, dans sa peinture de la police, etc. Sincèrement, mon influence qu'il a ne vient plus, mais je trouvais qu'il y avait un brassage qui était vraiment très réussi et qui fait que même si le film est quand même assez long, on est sans cesse reviré et on ne s'ennuie pas un seul instant. Même en le voyant.
Je pense de toute façon qu'il faut le voir plusieurs fois parce que moi la première fois que je l'ai vu, donc, pareil contexte particulier, ça devait être première séance du matin à Cannes, peut-être deuxième, bref à 11h, donc ça veut dire que à 13h30 tu sors de la séance, ouais, t'as pas bon mangé, t'es voilà bref. Et au contraire, à la fin du film, je me suis pas posé la question de savoir si j'aimais le film ou pas, en fait, je me suis surtout dit, je crois que j'ai rien compris. J'ai vachement aimé, mais j'ai rien pigé. Je suis pas sûre d'avoir forcément mieux compris la deuxième fois, mais les choses se sont un peu plus éclaircies. J'ai trouvé le film brillant, que ce soit dans les ruptures de ton, même dans le fait de le village, la forêt deviennent de vrais personnages, en fait. Il y a une façon de filmer les paysages et de filmer les décors qui est bluffante. Donc il n'y a pas simplement les acteurs, il y a quelque chose d'autre en plus de vivant, c'est pas juste un décor qu'on filme comme ça. Après ça va loin, parfois un peu trop loin, mais c'est ce que j'aime aussi c'est ce qui fait aussi pour moi le charme du cinéma coréen qui se perd un petit peu dans le formalisme actuel. Là on retrouve en fait la folie des films coréens qui nous a tous marqués en fait il y a une dizaine d'années. Et c'est ça que j'aime vraiment chez ce réalisateur, c'est qu'il est jusqu'au boutiste en fait. Même si parfois ça frise avec le ridicule.
Il y a une chose qui me plaît beaucoup chez ce cinéma, c'est qu'on espère retrouver un peu un équivalent de Friedkin, tu vois, en Corée, quoi. C'est au-delà d'être un très bon cinéaste, même si j'aime pas son deuxième film, ça reste un grand manipulateur. Voilà, il comprend les attentes du spectateur, il comprend où l'emmener, où le manipuler, où le voilà.
C'est-à-dire quoi il comprend les attentes du spectateur? J'ai pas compris ça.
Les attentes, il te dit avec l'emballage de films de genre type thriller et tout ça.
Balisé, en fait.
Les attentes et les codes, en fait, ce à quoi tu réponds habituellement, il va constamment les détourner pour t'amener vraiment vers quelque part ailleurs, quoi.
Y compris, je pense, dans le faux semblant de la comédie de la première partie.
Oui, voilà.
Vraiment dans une tonalité comique.
Bah, de toute façon, quand tu disais la mémoire, c'est ça. C'est vraiment t'as un thriller qui se passe dans la campagne coréenne avec un flic un peu ballot qui comprend pas très bien ce qui se passe autour de lui et qui va se retrouver ballotté. Enfin voilà, dans une histoire qui est un peu qui le dépasse complètement. Donc c'est là aussi, c'est-à-dire que tu reprends des éléments auxquels tu es très familier et lui va s'amuser de cette attente pour constamment te retourner. Et c'est vrai que la première fois quand tu le vois, en effet, tu ressors un peu abasourdi et tu t'amuses à jouer, ah tiens, le jeu des pistes, qu'est-ce qu'il y a à vous dire là, et tout ça. Et tu laisses les choses un peu reposer, tu le vois une deuxième fois, et bon, on a une longue discussion sur le podcast, bon, certaines thématiques et certaines lignes sont un peu plus fortes, et quand tu le revois, de cette façon-là, les choses s'embriquent, et finalement, tu te rends compte que le film est quand même très très cohérent. Et il y a par contre là où j'ai un peu de mal, c'est la toute fin. Tu vois que lui, il a pas vraiment de solution et il se dit j'ai noyé poisson en faisant un truc assez artificiel et finalement qui rend pas les choses très cohérentes, quoi. Alors qu'il se perd vraiment sur la fin, mais je pense que c'est vraiment
une fin ouverte, très ouverte.
Ouais, c'est pas forcément une fin ouverte. Je pense vraiment qu'il perd pied à ce niveau-là et c'est un peu l'esbrouffe.
Moi, je suis d'accord pour la parenté avec Friedkin, et justement, c'est parce que Friedkin est un cinéaste qui a beaucoup travaillé la question du mal, en fait, et elle est aussi ultra présente dans les trois films de Nanjing, et justement, la fin justifie toute cette
tu traitement. Tu vas faire un dossier sur cette thématique. Hein.
Oui, d'ailleurs, j'ai fait un dossier en juillet. Et donc,
le petit coup de pub.
Oui. Lisez mon dossier sur Nanjing.
Bon, sur le mal, c'est ça.
Le mal. Sois plus convaincu quand tu l'annonces, bordel.
Et justement, elle est ultra présente dans le cinéma de Friedkin et elle est aussi dans le cinéma de Nanjing. Et justement, la fin du film est pratiquement. Met en évidence cette parenté qui est aussi dans l'exorciste, en fait. La fin du film, c'est le début de l'exorciste, en fait. De Friedkin, et en fait, en faisant ça, justement, Nanjing se passe au fond même de cette question de qu'est-ce que le mal et sa représentation, en fait, travers ce qu'on pense l'être et de l'image qu'on en a, justement.
Antoine, je crois que ce film va aussi figurer dans le trio de tête de l'Idée d'une fois le cinéma cette année.
Oui, tout à fait, pour toute la raison qu'on a partagée jusque-là, et que je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit. Je pense, je rajouterais surtout que c'est un grand film sur la croyance. Et aujourd'hui, quand on fait du cinéma, peut-être aujourd'hui encore plus qu'à d'autres époques dans le passé, où on croule sous les références cinéphiliques, on parlait de Friedkin, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, c'est plus important que jamais que de rediscuter de la suspension d'incrédulité, mais aussi parler de la croyance à la fois à l'intérieur du film, parce qu'il y a beaucoup de questions de superstition, de mystère, de croyances plus ou moins presque folkloriques.
La rumeur aussi. Hein.
Et toute la rumeur, oui, absolument. Tout cet aspect, il y a aussi la dimension sociale. C'est très intéressant parce qu'à côté de la dimension surnaturelle, on est dans un thriller, du moins au début, qui a l'air presque terre à terre. Et on se rappelle un peu de Memories of Murder. Enfin, il y a ce côté thriller rural extrêmement qui prend aux tripes.
Qui sont des codes qu'on maîtrise parfaitement et qui est pas du tout choquant, du coup. Les ruptures de ton, en fait, ça passe nickel parce qu'on l'a déjà vu. C'est après qu'il y a un retournement.
J'aime beaucoup dans ce film, c'est cette façon donc, de mettre la croyance non seulement dans son scénario, mais dans la construction même du film. Comme c'est un film un peu en mille feuilles, qui superpose toutes ces dimensions justement de thrillers, de films de fantômes et puis de films d'exorcisme. C'est le meilleur film d'exorcisme de l'année, hein, je pense.
La double scène d'exorcisme, elle est juste incroyable, en fait,
Mais ça, au cœur, il laisse en suspens. Moi, ce que j'aime dans la fin, c'est ça laisse en suspens, justement, les choses. Il ne cherche pas à mettre en place une croyance, qui serait assénée au spectateur. Il ne cherche pas non plus totalement à diluer, il laisse dans une sorte d'effet de suspension qui fait que le film, je trouve, vit beaucoup dans la mémoire. C'est un film que j'ai vu que deux fois. Contrairement à d'autres qui m'ont vu un peu plus, mais que je reverrai, je pense, une troisième fois très volontiers, parce que je sais que c'est un film qui reste en mémoire, et ça, c'est le symptôme le plus sûr.
Je pense que c'est un film qui a besoin d'être maturé aussi.
C'est un film très dense, en fait, et je pense qu'il faut le voir. Fait partie des quelques films, en fait, où on sent pendant la première projection qu'on loupe plein de choses. On le sent, on voit pas évidemment ce qu'on loupe, mais on se dit, je sens que j'ai loupé des trucs, il faut que je le revoie, en fait. Et
c'est un peu comme Oussia Oussienne, quoi, il faut vraiment le revoir.
Oui, mais Oussia Oussienne, c'est parce qu'on s'est endormi, en fait. C'est pour ça que je le revois. Parce qu'on a loupé des trucs.
S'il y avait deux films à voir,
parce qu'on a fermé les yeux. Mais c'est à ça aussi qu'on reconnaît les grands films, en fait. Ce sont des films qui ne livrent pas tout à la première vision.
Gaël, est-ce que ce film figurera aussi dans le trio de tête de Cinématrack?
Je vais avoir la réponse incessamment sous peu, mais j'imagine que non. Mais normalement, le vin, en fait, là, on voit tout,
les tops
sur le vin. Mais même si mes rédacteurs le mettent replacé, je ferai en sorte de...
Quel exemple de rédacteur!
Là, c'est vraiment. Là, c'est l'inverse de Victor.
Ah oui, c'est ça. Quoi que.
On verra bien. Enfin,
mais donc, ton avis est plus mitigé, du coup, toi.
Oui, non, enfin, il est assez mitigé. Enfin, c'est juste, enfin, notamment sur le rupture de ton. Enfin, moi, j'ai pas du tout marché. Quoi. Enfin, j'ai trouvé ça. C'est vrai que les côtés, enfin les scènes d'exorcisme, ce genre de choses, en fait, m'ont bien plu, justement, enfin sur le côté, burlesque. Enfin, je veux dire, pour moi, elles sont un peu
Presque grotesques.
Oui, ouais, grotesque, c'est beaucoup mieux.
Oui, merci. C'est le burlesque.
Voilà.
Et, on s'imagine des trucs bizarres.
Oui, non. Merci. Je vais être encore un peu fatigué
de ces
prochains... Non. 6 mois après, elle est
Contre le coup de l'eau. Pour revenir là-dessus, c'est que moi, j'ai trouvé la scène d'exorcisme, enfin, les cérémonies, enfin, la grande cérémonie chamane, je me suis dit, mais, putain, c'est quand même... C'est ridicule, ce truc.
On en avait parlé,
après, en fait, je me suis dit, je vais quand même regarder sur YouTube à quoi ça ressemble, les cérémonies chamanes coréennes. Pas le truc que je maîtrise le plus, et ça ressemble vraiment à ça, quoi. C'est vraiment c'est aussi grotesque en réalité, en fait.
Non, mais c'est pour ça, enfin, justement, ces scènes-là, moi, m'ont intéressé, m'ont bien plu, mais c'est plus le côté, enfin, les moments, qui m'ont rappelé, enfin, Mémoire, le côté un peu.
C'est presque un leurre au début du film, c'est pour te montrer comment, en fait, l'inconscient des personnages. Est traversé par ces espèces de visions un peu fantasmagoriques du japonais qui est là, qui vit dans la forêt. Et ça, c'est raconté effectivement d'un côté avec une patte humoristique pour se moquer, mais ça montre à quel point ça imprègne aussi l'imaginaire des personnages. Et dans la deuxième partie, c'est complètement aussi évacué.
Mais justement, donc, enfin, le côté humoristique, en fait, moi, j'ai pas du tout marché avec ça. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment assez lourdingue et...
Ah, mais c'est super lourd, l'humour coréen, il est pas fin, quoi.
Ouais,
c'est super lourd.
Pour Mademoiselle, ça m'a beaucoup fait rire.
L'humour français n'est pas très fin.
Je suis d'accord aussi.
C'est pas le même type d'humour employé, en fait. C'est vraiment un humour employé dans les polars coréens, dans les thrillers coréens, qui est toujours le même.